Tout de suite, sur RTVFM, c'est l'heure de votre émission « Un homme, un territoire ».
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Un homme, un territoire sur RTVFM que vous pouvez écouter bien sûr sur internet sur rtvfm.net mais aussi sur le 102.2 à Carpentras et ses environs. Cette émission vous permet de faire découvrir un métier, une passion mais aussi un attachement lié à notre territoire. Et pour ce deuxième numéro d'Un homme, un territoire, je reçois le directeur de l'école ESA Games. Il s'agit de Gilles Francescano. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, vous allez être ensemble. On va être ensemble pendant 30 minutes. Une émission, donc, qui va se dérouler en deux parties. Première partie qui va être axée plus sur votre parcours. Et ensuite, deuxième partie axée sur l'école ESA Games, ce que vous avez fondé en 2016, si je me trompe pas, à Carpentras, ce qui prouve bien que vous êtes au plus proche du territoire vauclusien.
Depuis quelques années, oui.
On est d'accord. Hein. Alors Gilles Francescano, on va commencer par vous parce qu'en fait, on vous connaît un peu mal. Donc c'est l'occasion de vous découvrir un peu plus. Vous êtes né le 12 mai 1966 à Nice.
Tout à fait, oui.
Dès la fin des années 80, vous commencez à vous faire connaître déjà à ce moment-là pour faire des illustrations, pour des traductions entre autres.
Oui.
Parce que je précise, au tout début, à la base, vous êtes à la fois dessinateur et aussi illustrateur. Hein.
Oui. Oui, au départ, enfin, mon métier que je conserve toujours d'ailleurs, c'est illustrateur effectivement de romans de genre.
Je l'ai précisé, hein, vous êtes directeur de l'école ESA Games. Est-ce qu'au final, ça veut dire que vous avez mis un trait, on va dire, sans vilain jeu de mots, un trait en tant que de votre ancien métier dessinateur?
Alors le trait, c'est une belle image, mais non, puisque ça, c'est ce qui le dessin, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et je dirais l'illustration au-delà du dessin. Donc non, j'ai conservé cette activité, alors qui est plus sporadique aujourd'hui, mais qui me permet de rester voilà sur l'actualité et puis de m'intéresser toujours à ce qui est important pour moi, à savoir le dessin. Ouais.
Alors du coup, la question que je me pose, c'est comment ça vous est venu cette passion pour le dessin? Est-ce que c'est grâce à des amis ou alors est-ce qu'il y a eu un déclic un jour où vous êtes dit je vais devenir illustrateur?
Bah, en fait, je pense que le dessin, ça vient un peu naturellement à tout le monde quand on est petit, quand on s'ennuie un peu, quand on essaie de trouver une activité solitaire. Même si j'ai un jumeau, on reste quand même deux solitaires, je dirais, séparés. Mais donc le dessin, ça a commencé comme ça. Et puis après, effectivement, c'est au gré des rencontres, au gré des satisfactions aussi, parce que le dessin, ça permet de communiquer. Quand on est petit, quand on s'aperçoit qu'on fait sourire, qu'on arrive à créer un petit peu de chaleur humaine grâce à un dessin, on se dit tiens, ça peut être un bon moyen, voilà, d'aller vers les autres. Et je pense que voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, les circonstances font que j'ai pu avoir la chance de continuer. Oui.
Alors au niveau des ouvrages, je crois savoir que vous êtes passionné donc de tout ce qui est fantasy et tout ce qui est science-fiction aussi.
Voilà, moi c'est surtout la science-fiction, la fantasy entre guillemets dans mon parcours, ça reste accessoire, même si aujourd'hui c'est une grosse partie entre guillemets de la production mondiale. Mais je suis pas voilà, si on pose la question de ce que j'aime réellement, ça va être la science-fiction, ça va être quelque chose d'un peu plus introspectif, voire du fantastique, et la fantasy arrivera un petit peu pas en dernière position, mais en tous les cas, un peu après ces premiers pôles. Et alors après, on peut débattre sans cesse et des heures durant. Il y a beaucoup de conférences là-dessus, de discussions sur la différence entre ces genres-là. Mais quand on s'intéresse, je pense, à l'autre et à la société, à l'évolution des choses, je pense que la science-fiction tombe sous le sens. Oui.
Donc quand vous avez un livre de Stephen King, je crois que vous êtes heureux.
Oui, alors voilà. Stephen King fait partie, entre guillemets, des auteurs, je dirais, plus de fantastique qui m'animent, qui me font vibrer, même si, effectivement, il est quelquefois décrié parce qu'il a une écriture populaire un petit peu simpliste de temps en temps, mais ça reste quand même un maître dans le genre. Mais après, voilà, quand on parle de science-fiction, c'est des ouvrages souvent beaucoup plus ambitieux quand même, que ce soit de Van Vogt à Asimov ou... Des gens comme John Varley. Et donc ça, c'est des épopées, disons, qui questionnent la société. À Heyerdahl, par exemple, en France, ça a été quelqu'un de très important pour moi. Et du coup, dont les interrogations, dont les questions, dont les principes d'anticipation restent d'actualité. Oui.
Et vous avez illustré combien d'ouvrages au total?
Alors ça, je peux pas vraiment vous répondre parce qu'en fait, je ne sais pas exactement. J'en ai quand même. J'ai réussi à en conserver chez moi, donc en regardant sur les rayons de la bibliothèque, je saurai à peu près. Mais disons tout ouvrage confondu, puisque j'ai quand même travaillé aussi pas mal sur de multiples supports. Je pense qu'on doit approcher du millième aujourd'hui d'images publiées. Oui.
Et donc, suite à toutes ces illustrations, je me suis renseigné et j'ai vu que vous avez reçu plusieurs grands prix, et notamment le Grand Prix mondial de la science-fiction en 1995 à Glasgow, en Écosse. Vous pouvez nous expliquer ce moment-là?
Oui, alors ben, disons ça reste des bons souvenirs. Quand on commence, en fait, quand on démarre, je dirais c'est pas une question trop d'ego, mais on a envie de se frotter un petit peu à d'autres, voir un petit peu où est-ce que se positionne notre travail. Et au gré des expositions, voilà, je me suis rendu compte que mon travail suscitait de l'intérêt, suscitait de l'émotion sur certains travaux. Et donc lors de manifestations, bon, là il s'agissait par exemple de la convention mondiale, donc c'est des réunions entre guillemets d'experts de la science-fiction avec des auteurs, des illustrateurs et des gens proches de ce type de phénomène. Et voilà, donc ça s'est trouvé un petit peu comme ça, presque par hasard. Il y a d'autres prix auxquels j'ai vraiment voulu par contre participer sur des aspects plus techniques, des choses comme ça, comme l'histoire de l'aérographe d'or, là, ça, je crois que c'était, je sais plus, en 96 ou autre en Allemagne. Ça permettait, voilà, de savoir où on en était au niveau de la technique. Sachant que, voilà, à l'époque, je travaillais quand même beaucoup, j'essayais d'être très rapide parce que malheureusement, en France, les prix étant ce qu'ils sont, on est obligé de travailler beaucoup et rapidement pour pouvoir cumuler de manière à payer un loyer. Donc ça faisait quand même plusieurs illustrations par mois, voire par semaine. Et sachant que je tiens absolument, moi, à lire les ouvrages que j'illustre, bah, du coup, ça fait quand même du temps passé sur chaque travail. Ouais.
Alors ensuite, bah, les années ont passé, vous avez créé un groupe qui s'appelle Art et Fact. C'est une association, en fait, pour résumer, des illustrateurs professionnels qui sont liés à la science-fiction, mais même aussi à du fantastique. Vous pouvez nous détailler quelle était votre fonction là-bas?
Bah, là, en fait, ça a été effectivement, je dirais au départ, c'était un peu l'avènement des blogs, en fait, qui a amené le fait d'avoir un désir de se réunir. C'était avant, il y avait des prémices d'associations, mais on a été assez précurseurs là-dessus. Le groupe s'était fondé en 2000 et s'est arrêté en 2010 après ma présidence, en fait. C'était histoire de mettre des éléments en commun, que ce soit positif ou négatif, pouvoir faire des expositions, pouvoir travailler ensemble et parler du métier. Donc on était liés au Festival des Utopiales dont je m'occupe toujours et on faisait donc régulièrement des expositions là-bas. Voilà, regrouper, discuter, essayer de faire avancer les choses. Ça a pu faire avancer certaines choses, mais après, effectivement, avec l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et autres, beaucoup d'autres groupements se sont faits, ce qui fait que nous, on s'est doucement laissé endormir, quoi.
Et plus récemment, en 2017, vous avez été nommé parmi les 50 personnalités du Vaucluse Cantat Vénessin. Et là, j'imagine, c'est un peu une sorte de consécration pour vous.
Alors, ben, j'avoue que j'étais hyper content et flatté parce que ben, le Cantat, ça fait pas très longtemps en fait hein, que j'y suis, puisque j'ai découvert le Cantat en 2013, donc grâce à un festival de littérature auquel j'avais été invité, donc avec l'association de Malika Delamo qui faisait ce petit festival à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai été séduit par Carpentras, par le centre-ville, par la disponibilité des gens, par le bon, même si je suis du sud, donc je connais bien cette convivialité et cet accueil, mais voilà, le fait de rencontrer cette ville, disons, encore baignée dans son berceau historique, encore avec cette architecture, la disponibilité aussi des personnes, hein, puisque ça a été pendant une semaine, ça a été la rencontre avec l'ancien maire Francis Adolphe aussi qui a créé un petit peu le point de départ de tout ça. Oui.
Avant de passer à la pause musicale, Gilles Francescano, justement, la question que je vais vous poser, quel genre de musique vous écoutez?
Moi, je suis resté, alors non pas, sans parler d'une nostalgie, mais je suis assez fidèle sur mes goûts, puisque quand on passe des heures sur une page blanche à dessiner, on essaie d'avoir pas mal d'activités parallèles, et c'est vrai que la musique, du coup, avait son importance. Et puis aussi le fait, je pense que c'est ça, c'est resté ancré dans mon âme, à savoir la découverte des images en fait par le biais des albums vinyles. Et les albums vinyles les plus illustrés à l'époque étant ceux de type hard rock ou metal, des choses comme ça. Donc je pense que c'est ce qui a influencé et mes goûts musicaux et aussi mes goûts en dessin en fait, puisque le fait de voilà de que ce soit le monstre de Iron Maiden ou les couvertures illustrées enfin les photographies par exemple d'AC/DC, des choses comme ça, ça comptait dans mon imaginaire d'enfant et ça et c'est resté comme goût musicaux. Donc effectivement j'écoute pas mal de métal, alors pas forcément des choses très actuelles parce que bah malheureusement j'ai pas tellement le loisir de me tenir très au courant de ce qui se fait actuellement. Mais j'essaye, et puis tout en restant fidèle à mes anciens goûts musicaux. Donc ça va de Black Sabbath à Motorhead, en passant par des choses des fois un peu plus françaises aussi. Et donc ça réveille, ça permet de rester vigilant, ça permet de... Enfin, en tous les cas, voilà, pour moi, ça permet de rester vigilant. Ouais.
Alors on va écouter un groupe que vous adorez, un groupe français en plus, Trust, Antisocial. Pourquoi cette chanson ?
Ah bah alors Antisocial, ouais, forcément, ça, là c'est mes 14 ans quasiment, ou pas loin, je les ai plusieurs fois vus en concert, ça reste des souvenirs magnifiques de mon adolescence, et malheureusement leur discours reste complètement d'actualité, si ce n'est pas encore plus qu'avant. Bon, j'adore le personnage de Bernie Bonvoisin, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais la porte est ouverte quand il veut. Et voilà, je me reconnais dans ce qu'il raconte, je me reconnais dans son attitude, je me reconnais dans sa vision du monde et de la société française, et j'aurais aimé que les politiques lui donnent tort, mais pour l'instant ils lui donnent raison.
Bon, on va faire donc une pause musicale avec le groupe Trust et leur chanson Antisocial. Donc on va écouter cette chanson et puis on revient pour la dernière partie de cette émission Un homme et un territoire. À tout de suite sur RTVFM.
Impossible de violer cette femme pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. aussi d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Antisocial.
De suite sur RTVFM, c'est l'heure de votre émission Un homme, un territoire.
Et nous sommes de retour dans l'émission Un homme, un territoire sur RTVFM avec notre invité qui est toujours parmi nous, Gilles Francescano, illustrateur il y a quelques années et désormais depuis 2016, vous êtes donc le fondateur de l'école ESA Games à Carpentras, et pour cette dernière partie, on va parler de l'ESA Games, l'école du jeu vidéo, et pourquoi vous avez voulu créer une école, Gilles Francescano.
Alors, ça fait un peu un lien aussi avec l'ancienne carrière, entre guillemets, puisqu'en étant illustrateur depuis 30 ans, j'avais parcouru pas mal de lieux pour donner des cours aussi. Et donc, au gré de ces enseignements, bon, il se trouve que j'étais plus attaché à certaines écoles, et à un moment donné, il y a eu l'idée d'implanter une de ces écoles en France, en fait. Alors ça n'a pas pu se faire directement, mais du coup cette idée avait germé, et ensuite ça a été une rencontre, simplement, comme je vous le disais, le fait de rencontrer la ville, de passer ici du temps, d'avoir été accueilli, de m'être rendu compte que malgré l'importance de la ville, le maire à ce moment-là était très disponible, et ça a été voilà au gré d'une rencontre et au gré d'une discussion que le projet et l'idée de le faire ici s'est imposée.
Parce que finalement, si on réfléchit, vous êtes un peu les seuls à faire ça dans le Vaucluse.
Alors actuellement, on est la seule école supérieure de la région sud, comme on dit maintenant. Mais après, il y a d'autres entités à Avignon là qui se sont établies après nous, qui sont sur d'autres types de pédagogie. Mais effectivement, on est les premiers du territoire. Oui.
Et la formation, elle se fait sur combien d'années? Sur 2 ans? Sur 3 ans?
Alors l'idée c'est d'avoir une école post-bac sur 3 ans. Donc on est parti sur une petite formule en fait, hein, parce que connaissant bien le fonctionnement des autres entités écoles privées consacrées aux jeux vidéo, elles sont toutes plus ou moins issues de grands groupes avec des pédagogies que moi je trouvais assez lourde. On a essayé de faire un petit peu comme étant le dernier né, je dirais, de la famille. On a essayé de tirer profit des défauts que l'on voyait chez les grands frères pour essayer de faire un petit peu différent. Donc on a essayé en 3 ans en fait pour voir si on était capable de changer une vie simplement, hein, parce que il y a pas d'autre mot. Quand un jeune arrive qui n'a pas du tout de formation, qu'il est juste entre guillemets addict ou passionné par le jeu vidéo, et qu'il ne sait pas comment faire pour en faire un métier, transformer sa passion en métier, c'est vraiment changer une vie. Et donc au départ, voilà, c'était l'idée des 3 ans, d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut, en concentrant une pédagogie, la faire la plus courte possible, pour qu'elle soit pas lourde aussi sur les familles, parce que école privée dit coût. Et voilà, on a voulu essayer de rester le plus accessible aux familles du Vaucluse. Oui.
Donc c'est sur 3 ans, et justement pendant ces 3 ans, ils en profitent, j'imagine, pour rencontrer des professionnels qui viennent à l'école.
Voilà, donc là, la scolarité est en 3 ans. Aujourd'hui, donc cette année, on lance une prépa, puisque du coup, on a essayé aussi étant une petite structure, on essaie de rester souple et de rester vigilant et à l'écoute de ce que l'on trouve. Et quand on a vu de multiples dossiers, on voit les profils des élèves qui sont susceptibles de s'intéresser à l'école. Et donc la prépa quasiment s'est imposée petit à petit. Et ensuite, effectivement, pendant les 3 ans, donc ils ont le contenu pédagogique que l'on a mis en place avec une équipe de profs et avec une équipe de professionnels issus du studio, issus de studios connus, puisqu'on a vraiment travaillé à rebours en leur demandant quelles étaient les compétences attendues en studio et comment nous, en détricotant le processus, on pouvait les amener à acquérir ces compétences-là. Et donc il y a la pédagogie régulière avec le contenu quasiment entre 33 et 35 heures de cours par semaine, plus les devoirs, plus les stages. Et au milieu de tout ça, donc il y a les rencontres. Voilà. Et là, les rencontres, le fait de naviguer dans le milieu depuis une trentaine d'années me permet d'avoir un carnet d'adresses intéressant et de pouvoir contacter des personnes importantes et les faire venir à Carpentras. Donc c'est par ce biais-là qu'on a eu John Ho, l'illustrateur du Seigneur des Anneaux, qui est venu 2 fois à Carpentras. Il a même refusé d'aller à Avignon, pour la petite anecdote, pour pouvoir revenir chez nous. Donc j'étais très heureux de ça. On a eu Mathias Veraselt, qui est un jeune qui est né à Monteux et qui est DA de Overwatch chez Blizzard Entertainment à Los Angeles, qui travaille aujourd'hui aussi pour SpaceX par exemple. Donc on a des personnes assez importantes. On a eu le créateur de Code Lyoko, la série de dessins animés. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, on reçoit Pierre Pével ce soir, écrivain de fantasy, dont l'œuvre a inspiré des créations de jeux, qui sera là 2 jours avec nous. On essaye de faire bénéficier. Au départ, c'est entre guillemets la justification par le cours, par les étudiants, par leur apporter quelque chose, et puis essayer de faire rayonner ça au niveau de la ville et de la région. Mmh.
Ouais. Et donc, au niveau de la formation, vous les formez tout ce qui est animation 3D, tout ce qui est réalité virtuelle, parce que c'est très en vogue en ce moment.
Oui, alors on a les deux sections. On a trois chevaux de bataille sur la création de jeux, c'est-à-dire tout ce qui est game art, à savoir tout l'aspect visuel du jeu. Mmh. Ce que l'on perçoit, la création de personnages, la création d'environnement, et donc ça passe par la 2D, ça passe par du dessin traditionnel, ça passe par ensuite la 3D et le travail numérique. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle le game design, qui est la scénarisation du jeu, en fait, l'architecture du jeu. Donc là, on va les faire travailler sur Unity, par exemple, des environnements de développement de jeu, et la programmation. Donc ça, c'est une partie qu'on va développer encore, puisque on s'aperçoit que les studios de jeux demandent de plus en plus de techniciens vraiment experts, donc on va grossir cette partie. Et à côté de ça, donc on maintient aussi des cours d'histoire de l'art, des cours d'anglais un petit peu généraux, des cours de gestion de projet aussi, parce qu'il faut bien qu'ils sachent comment sortir dans la vie active. Mmh. Et la recherche de stages auxquels on s'attelle aussi régulièrement avec eux. Et on essaie comme ça de les placer sur des, entre guillemets, des plus grosses sociétés, ou en tous les cas celles qui les font rêver et qui peuvent les accueillir pour les garder en emploi ensuite. Ouais.
Alors au niveau des élèves, parce qu'après ils viennent passer un entretien quand ils viennent chez vous, et quand ils passent un entretien, quel est le critère, on va dire, qui fait que vous allez les accepter dans l'école? C'est la passion, j'imagine?
Alors c'est avant tout la passion, effectivement, parce qu'on demande donc un dossier scolaire, on demande un dossier de travaux quand il existe, puisque les personnes qui dessinent, on part du principe qu'ils n'ont pas attendu d'arriver à l'école pour dessiner, même si c'est possible, hein, on est une vraie école, c'est-à-dire que comme pour lire et écrire, on apprend. Donc on le fait ensemble quand il n'y a pas de base, mais quand il y a une bonne motivation. Et c'est au gré de cet entretien, après cet entretien avec tous les profs, on fait un pari avec l'étudiant, et lui aussi fait un pari sur notre formation. Et là, on est dans la 4e année de l'école, donc on a une promotion de sortie, et on s'aperçoit que les élèves les plus réguliers sont ceux qui sont déjà en emploi, puisqu'on en a qui sont partis à Paris, qui sont partis à Lyon, à Toulouse, à Amsterdam par exemple, sur des gros studios. Et on sait que ceux-là, en 3 ans, ils ont réussi à transformer leur vie, puisqu'ils sont passés de consommateurs de jeux à acteurs du jeu. On se dit que ils sont passés par une petite école à Carpentras, et puis ils ont pu avoir accès à des gros studios, les mêmes que ceux revendiqués par d'autres écoles bien plus importantes. Et ça, on est quand même assez fiers de ça, oui.
Est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues prochainement à l'école, à l'ESA Games?
Alors il y a tout le temps des nouveautés, puisque on se laisse la porte ouverte à beaucoup d'événements. Donc là, il y a une énorme nouveauté pour nous, c'est le déménagement, puisque l'école déménage dans le courant de l'été pour rester à Carpentras, mais prendre un bâtiment indépendant. Donc on va travailler sur d'autres horaires, sur d'autres manières de travailler aussi, puisque là, c'est des open space avec tout le monde réuni au même endroit. L'ouverture de la classe supplémentaire avec la prépa. Donc on a un potentiel là de passer de 60 à 85 élèves pour la prochaine rentrée, jusqu'à une jauge d'une centaine pour plus tard. Et avec toujours plus d'intervenants intéressants, on a Sabrina Calvo qui est game designer chez Dontnod par exemple, qui travaille avec eux, qui vient régulièrement ensuite à l'école. L'année prochaine, on se réserve quelques gros noms et qu'on diffusera sur le site internet. Donc un nouveau site aussi, un nouveau site internet qui arrive pour le mois de juillet. Donc voilà, plus de communication, plus d'accueil. Essayer de faire valoir ce que l'on fait aussi ici, parce que quand on parle de jeux vidéo en France, on parle souvent des grandes villes. On essaye de faire valoir auprès du syndicat national, par exemple, auprès de grands studios, que les choses se font en région, que même si effectivement on est dans le top 10, je dirais, des régions et des départements assez pauvres, on essaye quand même de faire quelque chose de bien. Et puis quand on arrive à faire venir des personnes de loin, puisqu'on a des étudiants qui viennent de l'autre bout de la France, qui sont heureux de connaître Carpentras, de rencontrer le principe de l'école, parce que même si on travaille avec les mêmes logiciels que les autres, on n'a pas la même logique, on n'a pas la même manière d'enseigner, pas la même atmosphère. Et quand ces jeunes-là peuvent repartir sur des gros studios, on en est très content. Oui.
Alors Gilles Francescano, on arrive déjà au terme de cette émission. Est-ce que vous voulez dire le mot de la fin avant de se quitter?
Le mot de la fin, c'est que le jeu vidéo peut être un métier merveilleux. Il faut que ce soit, c'est des métiers de passion. Donc aujourd'hui, avec l'évolution du monde, en tous les cas, moi, je m'aperçois qu'il vaut mieux s'accrocher pour une passion, quitte à, je dirais, à ce que ce soit difficile, plutôt que de se laisser des fois aller sur des métiers un peu plus complaisants, pour lesquels ce sera aussi difficile, mais moins passionnant. Donc j'invite les étudiants et les jeunes, entre guillemets, qui ont envie de travailler dans le jeu vidéo, à passer la porte de l'école. On a des journées portes ouvertes à venir, donc on a une journée porte ouverte le 27 avril, on en a une autre le 15 juin. Voilà, ce sont des métiers merveilleux. Tout ce qui est lié à la création reste des activités plaisantes, entre guillemets, dans lesquelles on peut se donner à 200% et ça vaut le coup. Oui.
En tout cas, Gilles Francescano, je vous remercie d'avoir participé à cette émission Un homme, un territoire sur l'antenne d'RTVFM. Puis on vous souhaite que du succès pour la suite avec les A-Games. Merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Un homme, un territoire sur RTVFM. Merci encore.
Merci à vous.